l'oreille du monde, géopolitique et actualité internationale. Un samedi par mois à 17h30 sur Radio Campus Paris.
Bonsoir tout le monde, merci d'écouter à l'oreille du monde. Je suis très heureux de vous retrouver ce samedi pour une nouvelle destination. Aujourd'hui, on part à la croisée de deux continents, entre l'Asie et l'Europe. Un carrefour logistique pour un pays qui tente aujourd'hui de s'affirmer sur la scène internationale. Et pour preuve, il a accueilli la dernière COP, la COP 29. Je parle donc de l'Azerbaïdjan. En entendant ce nom, vous pensez peut-être au conflit avec l'Arménie. On en reparlera avec mon invité tout à l'heure. Mais plus globalement, dans cette émission, on fera un tour de l'actualité internationale du pays, de ses relations avec les autres aussi. Et on verra que, même si on n'entend pas parler tous les jours de l'Azerbaïdjan, eh bien l'Europe entretient certaines relations avec ce pays, notamment à propos du gaz. Et puis, l'Azerbaïdjan est présent dans notre actualité française, car nos politiques accusent le pays d'ingérence sur nos outre-mer français. On essaiera de décrypter la situation avec mon invité. Avant l'interview, je vous présente le pays dans la carte d'identité. En fin d'émission, comme toujours, Florent nous fait son pas de côté. Aujourd'hui, c'est une fiction marrante et intéressante. Restez bien jusqu'à la fin. Installez-vous et nous partons tout de suite en voyage en Azerbaïdjan. Vous écoutez À l'oreille du monde jusqu'à 18h sur Radio Campus Paris.
À l'oreille du monde sur Radio Campus Paris.
Je vous propose donc de commencer par la carte d'identité géographique, géopolitique et historique de l'Azerbaïdjan. Du point de vue géographique, l'Azerbaïdjan se trouve dans la région du Caucase, sur un carrefour à la limite de l'Europe et de l'Asie. Plus précisément, l'Azerbaïdjan est entouré par la Russie au nord, la Géorgie au nord-ouest, l'Arménie à l'ouest et l'Iran au sud. Grâce à une enclave à l'ouest de l'Arménie, l'Azerbaïdjan dispose aussi d'une petite frontière avec la Turquie. Le pays est bordé par la mer Caspienne, à l'est, ce qui lui confère un accès aux ressources pétrolières et gazières de cette mer fermée. J'en reparle juste après. Le pays s'étend sur une superficie de 86 600 km². Sa capitale est Bakou, une ville portuaire sur les rives de la mer Caspienne. L'Azerbaïdjan compte un peu plus de 10 millions d'habitants et la langue officielle est l'azéri. C'est une langue dite turcique qui appartient donc au groupe des langues turques. Les habitants sont en grande majorité des azéris. Mais l'Azerbaïdjan est marqué par une grande diversité ethnique et on retrouve alors des lesghiens, des arméniens, des russes ou encore des ukrainiens. La religion prédominante est l'islam avec une majorité de chiites mais quand même 30% de sunnites. Le drapeau azerbaïdjanais est découpé en trois bandes horizontales de couleur bleue tout en haut, rouge au milieu et vert en bas. Au centre, on trouve un croissant de lune et une étoile à 8 branches, tous les deux en blanc. L'un symbolisant l'identité musulmane du pays et l'autre rappelant l'ancienne étoile à 8 branches du drapeau de la Turquie. Parlons maintenant politique et revenons un peu dans l'histoire. L'Azerbaïdjan se proclame république indépendante et démocratique en 1918. Ce sera un régime libéral et avancé, puisque par exemple, le droit de vote des femmes est acté en 1919, un principe de laïcité aussi est instauré, et un décret assure la liberté de la presse. Par ailleurs, l'éducation deviendra gratuite et accessible à tous. Mais en 1920, l'Azerbaïdjan est intégré à l'URSS et devient donc une république soviétique sous le contrôle de Moscou. Ce n'est qu'en 1991, à la chute de l'URSS, que l'Azerbaïdjan proclame son indépendance et adopte un régime républicain et parlementaire, d'où le nom officiel du pays, République d'Azerbaïdjan. Cependant, même si le pays s'est doté d'institutions démocratiques en apparence, le pouvoir est resté largement autoritaire. Pour preuve, il est dirigé d'une main de fer par une même famille depuis des décennies, la famille Aliyev. Aujourd'hui, Ilham Aliyev est le président de l'Azerbaïdjan depuis plus de 20 ans et il a succédé à son père qui a régné 10 ans jusqu'à sa mort. Le régime muselle et emprisonne les voix dissidentes, mais il va même jusqu'à traquer et tuer des opposants au régime qui vivent en France. Un autre aspect du régime autoritaire est le contrôle des médias. D'après Reporters sans frontières, Ilham Aliyev a, je cite, « anéanti toute espèce de pluralisme et il mène une guerre impitoyable contre les dernières voix critiques ». Les autorités tentent de supprimer les médias encore indépendants et les journalistes qui rejettent l'autocensure. Les médias pro-gouvernementaux menacent, je cite RSF, de « publier des informations personnelles compromettantes ». En cas de résistance aux pressions, les journalistes sont jetés en prison sous des prétextes absurdes. Je termine cette carte d'identité en parlant de l'économie de l'Azerbaïdjan. Et celle-ci repose en grande partie sur l'exploitation d'hydrocarbures, puisque le pays possède d'importantes réserves de pétrole et de gaz dans la mer Caspienne. Ainsi, ces hydrocarbures représentent la moitié de ses recettes budgétaires et plus de 90% de ses exportations. Cependant, l'Azerbaïdjan met en place un plan de diversification de son économie, car elle est pour l'instant trop dépendante du cours du pétrole. Dans un instant, on va reparler des hydrocarbures, mais aussi de la COP29, des relations franco-azerbaïdjanaises qui sont tendues, et plus globalement de la place géopolitique de l'Azerbaïdjan. Et tout cela grâce à mon invitée, Yelena Maglandière.
À l'oreille du monde, sur Radio Campus Paris.
Yelena Maglandière, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté cette interview. Vous êtes enseignante à l'université de Reims-Champagne-Ardenne et doctorante à l'université Paris 8. Et vous êtes donc avec nous aujourd'hui pour décrypter la géopolitique de l'Azerbaïdjan. Et j'aimerais commencer avec un événement important pour le monde et pour l'Azerbaïdjan. Du 11 au 22 novembre 2024, s'est déroulée la 29e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP29. Elle s'est tenue à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan. Et cette COP a fait beaucoup couler d'encre, sachant que l'Azerbaïdjan est un grand producteur d'hydrocarbures. Mais on peut se demander alors, Yelena Maglandière, quel avantage espérait tirer Ilham Aliyev de l'organisation de cette COP? Et finalement, quel est le bilan pour l'Azerbaïdjan sur le plan géopolitique?
Alors, le bilan pour l'instant, il sera encore assez difficile à tirer. Mais ce qu'essaye de s'arroger Ilham Aliyev en organisant cette COP, c'est une continuation d'une politique, d'organisation, d'événements, de méga-événements et d'événements qu'on appelle du deuxième tiers en Azerbaïdjan, qui depuis, on va dire, le milieu des années 2000, est une politique de l'État qui est financée par la rente pétrolière et qui s'est incarnée dans des événements culturels et sportifs tels que l'Eurovision en 2012, si je me souviens bien, ou le Grand Prix de Formule 1 depuis, il me semble, 2016, et qui, petit à petit, s'étend vers des formats plus diplomatiques tels que cette COP29.
Maintenant, restons sur cette COP. Lors d'un discours, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a utilisé des mots très durs à l'égard de la France. Il a notamment évoqué, je cite, les crimes commis par la France dans ses territoires d'outre-mer, comme les essais nucléaires en Algérie et en Nouvelle-Calédonie. Et qu'est-ce que cela dit des relations entre la France et l'Azerbaïdjan?
Alors, ce que ça dit des relations entre la France et l'Azerbaïdjan, c'est qu'en ce moment, elles sont extrêmement mauvaises. Du moins, c'est ce qu'elles sont en apparence, c'est ce qu'elles sont sur le niveau des discours et des prises de parole publiques. Au niveau économique, c'est encore autre chose et les liens sont un petit peu plus compliqués à défaire. Mais oui, l'Azerbaïdjan a entamé il y a quelques années de cela une entreprise d'attaque en fait de la France sur la scène internationale et ces attaques-là passent par la dénonciation de crimes coloniaux et postcoloniaux commis par la France et elles passent aussi par la mobilisation d'acteurs politiques des Outre-mer et des anciennes colonies françaises.
Alors voilà, vous dites que l'Azerbaïdjan donc s'intéresse aux Outre-mer françaises et par exemple plusieurs politiques comme Gabriel Attal et Manuel Valls ont dénoncé, je cite un tweet de Gabriel Attal, les opérations d'ingérence et de déstabilisation de l'Azerbaïdjan qui soufflent sur les braises et insultent notre pays. Pouvez-vous nous préciser de quelle nature sont ces opérations? Qu'est-ce que fait concrètement l'Azerbaïdjan dans nos Outre-mer?
Alors concrètement, c'est justement la question qu'on se pose. On n'arrive pas, je pense, encore très bien à démêler ce qui relève en fait d'une manœuvre d'ingérence et ce qui pourrait relever de quelque chose d'un petit peu plus grave. On ne sait pas trop si des financements sont engagés et à quel niveau. Ce que l'Azerbaïdjan a fait, c'est mobiliser, en fait, se créer un réseau de partenaires au sein de certains mouvements indépendantistes dans les Outre-mer français, pas au sein de tous les mouvements et pas de manière égale, de manière similaire selon les Outre-mer. Quand je dis Outre-mer, c'est vraiment quelque chose qui est compris au sens large parce que ces partenariats sont aussi déployés, par exemple, en Corse. Et la structure qui a mobilisé, enfin, qui a permis d'organiser un petit peu cette action-là d'ingérence et de prise de contact, ça s'appelle le groupe d'initiative de Bakou, donc en anglais le Bakou Initiative Group, qui est une association à destination du public selon le droit azerbaïdjanais, qui a été montée à Bakou, et qui sert d'officine ou de structure pour organiser des événements, des manifestations, des prises de parole en lien avec des mouvements indépendantistes et ou autonomistes dans les Outre-mer français et pas que français, parce qu'il y a aussi certaines questions posées aux Outre-mer néerlandais.
Et on sait, la France soutient l'Arménie dans le conflit du Haut-Karabakh, on en reparlera, mais donc est-ce que ces dénonciations de l'Azerbaïdjan et puis ces ingérences dans les Outre-mer peuvent être une forme de réplique au soutien de la France à l'Arménie?
Ah oui, c'est pas que ça peut être, mais c'en sont carrément. Si les relations entre l'Azerbaïdjan et la France ont toujours pu être un petit peu, pas violentes, mais agitées, en raison justement de la question arménienne et de la question des rapports, enfin, du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Mais là, dans cette phase actuelle de dégradation des relations entre la France et l'Azerbaïdjan, c'est quelque chose qui fait suite à la guerre de 2020, donc la guerre des 44 jours, selon la formule azerbaïdjanaise, qui a opposé l'Azerbaïdjan à la République d'Artsar, qui n'existe plus désormais, et à l'Arménie, ayant pour but de récupérer le territoire du Nagorno-Karabakh, qui avait été saisi par cette République d'Artsar dès 1994. Et donc la France, bien de personnes en Azerbaïdjan, qu'elle apporte un soutien à l'Arménie, alors qu'en réalité, c'est quelque chose de bien plus, moi, il me semble, de bien plus équilibré, de bien plus timoré, même s'il y a beaucoup de prises de parole de la part de personnalités politiques ou culturelles françaises en faveur de l'Arménie. Dans la réalité des faits, la France et l'Azerbaïdjan entretiennent des relations économiques et commerciales, notamment assez étroites. Mais voilà, ces prises de parole, cette visibilité politique est perçue comme un soutien affiché de la France à l'Arménie. Et donc, c'est dans ce but-là, c'est pour souligner ce qui est perçu comme une inégalité, que l'Azerbaïdjan a commencé ses manœuvres d'ingérence dans les territoires d'outre-mer français.
Vous venez de le dire, dans ce conflit qui perdure depuis des années, le Haut-Karabakh, les dernières actualités, c'est la guerre de 44 jours, l'offensive éclair de Bakou dans le Haut-Karabakh qui a permis l'exode de milliers d'Arméniens. Et maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la situation là-bas? Est-ce qu'un accord de paix est en train d'être trouvé?
Alors, techniquement, la situation, les enjeux sont maintenant relativement réduits, étant donné que toute la population ethniquement arménienne a quitté le Haut-Karabakh en septembre 2023, lorsque ce qui restait d'entité politique dans cette république non reconnue a capitulé à la suite d'un siège qui a duré 9 mois. Qu'avait entamé l'Azerbaïdjan en fin décembre 2022. C'est ce qui est un mouvement qui a été qualifié de nettoyage ethnique parce que l'Azerbaïdjan n'était bien sûr pas en mesure d'offrir des garanties de sécurité à la population arménienne qui était en droit de craindre des représailles et des violences fondées sur des bases ethniques. C'est pour ça que ça a été qualifié de nettoyage ethnique. Cet exode, cet exil de la population arménienne du Haut-Karabakh, qui a donc été complètement vidée de sa population et qui commence à être réinvestie, réaménagée et repeuplée par l'Azerbaïdjan et donc avec des populations azerbaïdjanaises.
Avant de continuer notre interview, c'est l'heure de la pause musicale et aujourd'hui je vous propose une danse traditionnelle d'Azerbaïdjan dans laquelle les hommes rivalisent d'agilité avec des pas de danse très rapides et complexes. Il s'agit d'une version moderne dans laquelle vous reconnaîtrez des instruments contemporains aux côtés de ceux plus traditionnels de ce type de musique.
Thank you.
l'œil du monde, géopolitique, un samedi par mois à 17h30 sur Radio Campus Paris.
On continue de parler de géopolitique régionale. Outre la Turquie qui semble, vous me confirmerez, être le grand allié de l'Azerbaïdjan, quelles sont les relations avec la Russie et l'Iran ?
Alors, la Turquie est un grand allié de l'Azerbaïdjan, pour autant, ce sont deux pays qui restent quand même des entités politiques bien distinctes et qui ont souvent des intérêts bien distincts et des modalités d'action sur la scène internationale également bien distinctes. L'Azerbaïdjan entretenait jusqu'à janvier des relations avec la Russie qui étaient plutôt bonnes, pour le dire rapidement, plutôt bonnes parce qu'il y a une forme de solidarité de pratique des autocrates qui fait que les manières que Aliyev et Poutine ont des manières de gouverner similaires et donc arrivent à conduire à trouver des consensus et ont pu ensemble en fait formuler une espèce de paix des vainqueurs au Karabakh, qui a fait que du côté russe, on a pu favoriser un petit peu plus l'Azerbaïdjan et la relation avec l'Azerbaïdjan, où la paix, les modalités de la paix telles que voulues par l'Azerbaïdjan, alors même que la Russie était censée être l'allié traditionnel historique de l'Arménie.
Pourquoi jusqu'à janvier, vous avez dit qu'il y avait une bonne relation avec la Russie jusqu'à janvier?
Alors, parce que, c'était pas en janvier, je crois que c'était fin décembre, la Russie a des défenses anti-aériennes de la Russie dans le Caucase, dans la République de Tchétchénie, ont abattu un avion de ligne civile azerbaïdjanais de la compagnie nationale Azad Airlines, qui effectuait une liaison entre Bakou et Grozny, qui est la capitale de la République de Tchétchénie. Et donc c'était une erreur humaine, mais qui a eu des conséquences absolument désastreuses, parce que je crois qu'on en est à 38 morts. Cet avion a ensuite été dérouté au travers de la Caspienne vers le Kazakhstan et s'est écrasé donc au bord de la Caspienne au Kazakhstan dans la péninsule du Manguistaou. Une fois que ça a été rendu évident que c'était des défenses anti-aériennes russes qui avaient abattu cet avion et ensuite c'était un commandement russe qui avait refusé que l'avion atterrisse en Russie et demandé à ce qu'il soit dérouté au Kazakhstan alors qu'il aurait encore pu atterrir en Russie sans faire trop de dégâts. C'est bien sûr quelque chose qui a suscité énormément d'indignation du côté azerbaïdjanais. Et qui a aussi donné un peu une plateforme au gouvernement azerbaïdjanais et au président azerbaïdjanais pour s'affirmer face à la Russie et réclamer publiquement des excuses à Vladimir Poutine.
Et du côté de l'Iran, on sait que l'Azerbaïdjan et l'Iran ne sont pas en bonne relation, mais pourquoi ? De quelle nature sont les tensions entre ces deux pays ?
Alors, les relations entre l'Azerbaïdjan et l'Iran sont très changeantes. Et varie très rapidement et aussi selon les thématiques, ce sont des thématiques qui sont considérées. Alors moi, je ne suis pas une spécialiste de l'Iran, mais il faut quand même comprendre que la plus grande partie du territoire que l'on pourrait appeler l'Azerbaïdjan traditionnel est en fait situé en Iran. C'est ce qu'on va appeler l'Azerbaïdjan du Sud, l'Azerbaïdjan du Nord étant l'Azerbaïdjan indépendant. Donc l'Azerbaïdjan iranien, ça représente une partie importante du territoire iranien. Et les Azerbaïdjanais iraniens représentent aussi une partie très importante de la population iranienne. Donc il y a un enjeu de politique et de géopolitique interne pour l'Iran dans sa relation avec l'Azerbaïdjan, qui est une relation diplomatique, mais aussi une relation transfrontalière et territoriale. Il y a ça déjà. Il y a le fait que l'Azerbaïdjan est un grand allié de l'État d'Israël, que l'Israël fournit des armes à l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan vend du gaz, du pétrole, enfin des hydrocarbures de manière générale à Israël, et aussi le fait que l'Azerbaïdjan a tendance à mettre en avant ses bonnes relations avec l'État d'Israël au niveau discursif et au niveau des prises de parole. C'est quelque chose qui est important et qui est vraiment mis en scène dans la diplomatie de l'Azerbaïdjan contemporain. Donc autant de choses qui bien sûr compliquent sa relation avec le voisin iranien. Et ensuite, il y a aussi plein de questions qui se posent de manière un petit peu plus au jour le jour, des questions de voisinage, des questions d'infrastructure, des questions de transport, qui font que la relation entre l'Azerbaïdjan et l'Iran passe par tous ces postes-là différents, des questions vraiment très contextuelles, des questions de relations internationales et des questions plus concrètes, des questions d'infrastructure, des questions de construction de voies ferrées qui sont en train d'être mises en place entre l'Azerbaïdjan et l'Iran, entre l'Azerbaïdjan, l'Iran et la Russie, entre l'Azerbaïdjan, l'Iran, la Russie et l'Inde, voilà, à plusieurs échelles.
Venons-en à l'Europe maintenant. Est-ce que l'Azerbaïdjan, pour nous, pour les Européens, est un bon partenaire ?
Alors, un bon partenaire, c'est pas à moi d'en juger. Et ce qu'on peut voir, c'est que les acteurs européens ne partagent tous pas la même position là-dessus. On voit des oppositions en fait qui se répliquent à plusieurs échelles, notamment entre les pouvoirs législatifs et les pouvoirs exécutifs. Typiquement, l'exécutif européen, incarné par la Commission européenne, a tendance à creuser et à valoriser et à essayer d'intensifier son partenariat avec l'Azerbaïdjan, qui est un partenariat infrastructurel et énergétique, qui porte notamment sur la fourniture de gaz à l'Union européenne et sur la construction de gazoducs. Il y a eu le projet du gazoduc sud-européen. Il y a certains projets d'infrastructures liés au corridor transcaspien qui sont en train de se mettre en place et qui sont aussi valorisés par l'exécutif européen. Tandis que du côté du Parlement européen, on a tendance à beaucoup plus se concentrer sur des questions de droits humains et de répression des libertés en Azerbaïdjan. Et donc, c'est au Parlement européen que s'exprime c'est dans cette structure-là que s'exprime une opposition aux accords qui sont conclus entre la Commission européenne et l'Azerbaïdjan. Par exemple, récemment, l'Azerbaïdjan a emprisonné un collègue à nous, Barous Samadov, qui est un doctorant en sciences politiques de l'Université Charles à Prague, qui a été arrêté fin août 2024 et qui, depuis, est en détention provisoire et dont le procès pour trahison doit s'ouvrir demain à Bakou. Et la trahison en question concerne en fait juste des articles et des écrits qui ne plaisent pas au pouvoir. Donc ce sont autant des cas comme celui de Barous Samadov, le sien est très emblématique, mais il y en a d'autres. Et donc ce sont autant d'affaires, autant de cas qui sont soulevés par le Parlement européen quand la Commission européenne se concentre plus sur des questions économiques et donc creuse ce partenariat en dépit des violations des libertés individuelles en Azerbaïdjan.
Bien, en dernière question, une question très vague, je aimerais vous demander comment voyez-vous le futur de l'Azerbaïdjan ? Est-ce que c'est une puissance qui peut monter dans le Caucase, devenir importante ?
Alors, si vous posez cette question à la diplomatie azerbaïdjanaise, on vous répondra qu'elle est déjà importante, que l'Azerbaïdjan se voit un petit peu comme... L'Azerbaïdjan théorise sa position et ses rapports diplomatiques un petit peu en fonction de sa situation géographique avec une approche un petit peu déterministe comme ça, en se voyant au centre et en se pensant comme du coup un élément qui doit être central dans les relations à la fois régionales à l'échelle du Caucase et puis régionales à l'échelle eurasiatique. Donc, c'est ce que l'Azerbaïdjan essaie de faire, c'est de centraliser un petit peu, et c'est une centralisation qui passe à la fois par l'infrastructure, donc la construction de voies ferrées, la construction, la mise en place de corridors commerciaux. C'est une centralisation qui passe par une politique d'organisation, justement, d'événements culturels, sportifs et maintenant diplomatiques. Et c'est une centralisation qui est facilitée par des opérations qu'on a appelées de greenwashing ou de peacewashing, qui ont notamment permis de mettre en scène la récupération du Karabakh par l'Azerbaïdjan sous des auspices moins violents et moins conflictuels. Donc, où va l'Azerbaïdjan, je ne sais pas, mais en tout cas, l'Azerbaïdjan se pense au centre et c'est important de voir pour vraiment pouvoir le concevoir comme un acteur à part entière et pas seulement un lieu de projection de puissance des États régionaux comme la Russie, la Turquie, l'Union européenne et l'Iran, mais bien de concevoir comme un acteur à part entière.
Eh bien, on suivra dans À l'oreille du monde la trajectoire géopolitique de l'Azerbaïdjan. C'est la fin de notre interview. Merci beaucoup, Yelena Maglandière. Vous nous avez permis d'éclairer la situation de l'Azerbaïdjan. Et je rappelle que vous êtes enseignante à l'Université de Reims-Champagne-Ardenne et doctorante à l'Université Paris 8. Merci beaucoup.
Merci de votre invitation.
Et on termine notre émission avec le pas de côté de Florent. C'est une fiction aujourd'hui.
Oui Léo, un pas de côté vers l'Eurovision, le concours international dont l'Azerbaïdjan a accueilli et organisé le millésime 2022. Je vous en propose une version un peu différente en lien avec le thème de l'émission, place à l'imagination. Mesdames et messieurs, nous sommes à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan. Bienvenue dans cette édition exceptionnelle du concours Eurovision de la géopolitique. Qui va recevoir les fameux 12 points ? Qui va repartir bredouille ? Suspense. Commençons par l'incontournable jury turc. Sans surprise, la Turquie attribue 12 points à l'Azerbaïdjan. Pourquoi ? Parce qu'entre ces deux-là, c'est une romance qui dure. Même langue ou presque, des cultures convergentes, même vision du monde. Bref, l'Azerbaïdjan et la Turquie, c'est un duo inséparable, du genre à chanter des ballades d'amour sous un feu d'artifice, de drones militaires ou de bombes à fragmentation. Passons maintenant au jury russe. Là, c'est plus compliqué. La Russie hésite. 8 points peut-être ? Car si Moscou aime garder un œil sur son ancien petit protégé ex-soviétique, elle n'apprécie pas vraiment ses rapprochements avec l'Occident et surtout ses livraisons de gaz qui font concurrence aux siennes. Mais bon, l'Azerbaïdjan reste un bon client et ne mord pas trop fort la main qu'il a longtemps nourrie. Alors 8 points, c'est raisonnable. Du côté de l'Iran, aïe, cette fois on frôle le zéro pointé. L'Azerbaïdjan ne plaît pas à Téhéran qui voit d'un très mauvais œil cette montée en puissance à ses frontières. On mettra un petit 2 points par pure diplomatie. La surprise vient des jurys européens. Les pays de l'Union européenne, ces dernières années, aiment bien l'Azerbaïdjan. Enfin, surtout son pétrole et son gaz. Mais entre certaines entorses aux droits de l'homme et les tensions dans le Haut-Karabakh, la France notamment est le pays d'Europe qui accueille la plus grande diaspora arménienne, difficile de donner trop de points sans faire jaser. Disons 6 points, histoire de rester poli et surtout de garantir des contrats énergétiques bien pratiques. Quant à l'Arménie, comment dire ? C'est un peu comme si la Grèce devait voter pour la Turquie. Zéro pointé, évidemment. Après des décennies de tensions et une guerre encore toute fraîche pour le Haut-Karabakh, impossible d'imaginer un seul point accordé. Et maintenant, le verdict. Avec 36 points, l'Azerbaïdjan ne remporte pas le concours, mais il s'en sort plutôt bien. Car après tout, en géopolitique comme à l'Eurovision, l'essentiel c'est de savoir bien jouer ses accords ou ses alliances stratégiques.
Merci Florent. C'est ainsi que nous terminons notre émission sur l'Azerbaïdjan. J'espère que vous aurez appris plein de choses. Vous pouvez partager ou réécouter cette émission ou bien découvrir les autres thèmes qu'on a abordés sur le site de Radio Campus Paris ou sur vos applications de podcast. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le 22 mars pour la prochaine destination. Même heure, 17h30 et même lieu sur Radio Campus Paris. Bonne soirée.
À l'oreille du monde, Géopolitique, un samedi par mois à 17h30 sur Radio Campus Paris.